Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Pierre-Henri.
Bonjour.
D'ailleurs, est-ce que je dois t'appeler Pierre-Henri ou plutôt Athé?
Athé, c'est plus court. C'est okay, pas mal.
Athée. Bon bah ça sera athée pour toute l'interview. Écoute, je suis hyper content de te rencontrer aujourd'hui. À la fois parce qu'il y a un petit côté passion d'enfant, je pense, qui s'est réveillé en moi en préparant cette interview, et aussi parce que j'avais très envie à travers ce podcast de comprendre ce qui poussait les gens à se dépasser, à repousser un petit peu leurs limites, et j'avais envie de sortir un petit peu de l'univers du sport. Donc toi, t'es dans un univers très connexe puisque tu as été pilote de chasse, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et alors on va beaucoup en parler. J'ai plein de questions, j'ai préparé plein de choses, mais comme je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer par l'enfance et j'aime bien savoir toi quel est ton premier souvenir de sport, que ça soit dans le pilotage ou pas forcément.
Mon premier souvenir de sport, c'était quand je devais avoir 5 ans. J'étais en Angleterre. Mon père était officier dans l'armée de l'air. Moi, j'étais dans la marine, mais lui était dans l'armée de l'air. Et il était officier d'échange dans le nord de York, donc vraiment dans le nord de l'Angleterre, où il fait pas très beau. Mon école, ma maternelle, était sur la base militaire. Et il y avait cette espèce de... Pour moi, c'était grand, mais c'était espèce de parc à côté de l'école où on nous faisait courir, pieds nus d'ailleurs, courait pieds nus. Et mon premier souvenir, c'est une course pieds nus, l'hiver, dans le nord de l'Angleterre en uniforme. Donc c'est original.
À 5 ans, c'est
un peu original. J'ai des photos en plus maintenant pour me prouver que c'était pas tu vois, un cauchemar ou autre, mais non. Donc il n'y avait pas de neige au sol, mais mon premier souvenir, c'est ça.
Du coup, l'armée et l'aviation, c'est une histoire de famille ?
C'est une histoire de famille, tout à fait. Mon père a fait 17 ans dans l'armée de l'air. Il était pilote de chasse, pour ceux qui connaissent Mirage 3, Mirage 4, qui faisait de la reconnaissance après du bombardement nucléaire, en entraînement, je te rassure. Tout, spoiler alerte, la guerre froide n'a pas vraiment eu lieu. Et ensuite, derrière, il est parti dans l'aviation d'affaires chez Dassault. Et puis là, c'est un jeune retraité depuis quelques mois. J'ai eu la chance d'être dans son dernier vol. Il était chez Corsair, la compagnie française Corsair.
D'accord. Ouais.
Donc, c'est effectivement une histoire de famille, que ce soit militaire ou aviation.
Ouais. Et c'est fréquent pour un pilote de chasse dans l'armée de passer après sur le civil et terminer un petit peu sa carrière de cette manière-là?
Bah, souvent, en tant que pilote, on sait pas faire grand chose d'autre que piloter.
Et donc, on a du mal à le croire.
Blague à part, c'est ce qu'on aime. Donc, du coup, tant que tu peux piloter, tu essayes de passer en civil. La transition ne se fait pas toute seule.
Ouais.
Moi, j'ai mis 3 ans à préparer ma reconversion. Mais on a une excellente formation dans l'armée qui est quand même reconnue à sa juste valeur dans le civil. Mais il y a un switch. Désolé pour l'anglicisme, c'est mon côté canadien. Mais il y a un vrai switch d'état d'esprit à faire parce que tes objectifs ne sont pas les mêmes que tu sois pilote militaire ou pilote de ligne. Heureusement d'ailleurs pour les passagers.
Ouais, ouais. Puis il y a aussi un petit switch de vie. Je le vois beaucoup avec les sportifs de haut niveau. Des fois, ils ont toute leur vie un peu cadrée, ils remplissent même pas leur feuille d'impôt par exemple, tu vois. Donc il y a aussi un petit switch de retour à la vie civile qui est pas toujours évident. Avec le recul, tu sais toi ce qui t'a donné envie de suivre la voie de ton papa?
Alors moi au début, ce qui m'intéressait c'était de différencier un petit peu et d'aller dans les forces spéciales. Donc pendant mes années lycée, je faisais beaucoup de sport et mon objectif c'était d'intégrer tout ce qui est forces spéciales, plutôt soit commando marine, donc nageur de combat, Uber, tout ça, je faisais beaucoup de natation, soit plutôt armée de terre, et là j'étais un peu extrême dans mes choix, deuxième régiment étranger de parachutistes à Calvi, c'était mon objectif.
Okay.
Ça aurait pu être un des meilleurs régiments de France et ils ont des spécialistes, c'est ce qu'on appelle les GCP, groupement de commando parachutistes, qui sont envoyés en amont, qui sont un petit peu... pour l'imaginaire collectif, c'est un peu les sortes de Navy Seals, un peu comme les commandos marines français. Donc, je me disais, ça, c'est vachement bien, c'est physique, c'est militaire. Et mon père me disait, t'es sûr que tu veux faire ça? Il y a peut-être mieux au sens différent à faire. Puis, en tant que parent, maintenant, avec le recul, je comprends qu'il n'ait peut-être pas forcément envie que son fils aille dans l'armée et aille faire la guerre.
Ouais.
Et une chose, une autre, je me suis dit, ah, l'aviation, c'est peut-être pas mal. Et puis après, je me suis posé de manière très pragmatique la question de ton impact sur le champ de bataille. Et l'impact de ta carrière militaire. Et c'est un petit peu ce qu'a poussé ma réflexion, qui est que si t'es force spéciale au sol, c'est vachement bien et tout, et tu vas sur le théâtre, t'as des actions, c'est vachement sympa, mais ton impact est démultiplié si tu viens avec 2 rafales marines et 2 tonnes d'armement.
Ouais.
Donc je me suis dit, si j'ai les capacités à faire pilote, autant peut-être amener un impact plus grand et tout simplement impacter le champ de bataille de manière plus efficace. Donc c'était un petit peu ça en termes de une sorte de corrélation entre prise de risque, investissement et efficacité militaire, tu vois.
Ouais.
Donc c'est un peu pragmatique, une sorte de calcul mathématique, si tu peux dire. Le mieux, c'est ça. Puis ça tombe bien, c'est un métier quand même qui est sympa.
Ouais.
Mais il y avait vraiment cette logique de retour sur investissement.
Ouais.
Je m'engage, ok, je rentre. Quand tu rentres dans l'armée, tu te dis, je vais peut-être mourir tout ça, très bien, ça, d'accord. Maintenant, comment je fais pour être le plus impactant, le plus efficace possible? Donc c'est une sorte d'identification de l'industrie avant. Et je dis, ah, pilote de chasse, là, t'as vraiment un impact.
Okay.
Et donc je me suis dit, je mets toute mon énergie là-dedans. Et puis j'ai bien fait, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé.
Ouais. Et à quel âge t'as commencé à voler?
À 14 ans. J'ai commencé à voler à 14 ans. J'ai eu la grande chance que mon père, qui était pilote de ligne, connaissait bien cette industrie, forcément. Ouais. Donc j'ai pu faire de l'aviation générale à 14 ans. J'ai été le plus jeune pilote d'Europe à 15 ans. Le jour de mes 15 ans, j'ai pu voler tout seul à 15 ans dans un avion.
Ouais, j'ai vu ça, ouais. Le plus jeune pilote d'Europe à voler.
C'était
Mais c'est légal, attends.
Non, pas du tout. Je vais en prison. Non, c'est complètement légal. C'est okay. Ce qu'on appelait le brevet de base, le bébé. Okay. Tu vois, c'est rigolo. En plus, ça portait bien son nom. Tu venais à l'aéroclub en vélo parce que t'es pas à te conduire. Et puis, tu prenais un avion. Alors, c'est des petits avions, hein. Ils font 600, 700 kilos grand max avec 90 chevaux ou 100 chevaux de puissance. Et puis, t'as le droit de te déplacer à 30 km autour de l'aérodrome.
D'accord.
Donc,
okay.
C'est vachement responsabilisant. Et moi, je fais mon premier vol le 9 septembre 2001.
Okay.
Premier vol tout seul.
9 septembre 2001, donc deux jours après.
C'est ça, donc ouais. Juste avant le drame. Et c'est un super souvenir. Et d'ailleurs, je me rappelle que je faisais pas le malin et je chantais du P. Diddy à l'époque, tu vois, pour me remonter le moral tout seul dans mon avion. Bad Boys for Life, tu vois, ouais, je confesse. Ouais. Donc, ça m'a bien aidé sur mes premiers vols. Donc,
Ok, et tu, après, dans ta carrière, tu avais le droit toujours d'écouter de la musique dans,
non,
dans,
non, dans non je, tu chantes, non, mais.
Tu alors, chantes pour rigoler.
Ouais, mais... en fait, tu chantes un peu ou, non, t'as, alors pour tout dire, j'ai déjà écouté de la musique en rafale, mais ouais. Au point d'arrêt. C'est-à-dire que des fois, tu, comme dans un avion de ligne, tu dois attendre avant le décollage. Donc là, on te dit, bah, tu peux pas décoller pendant les 20 prochaines minutes. Alors quand t'es jeune pilote, tu le fais pas, mais au bout d'un moment, tu tentes des trucs, forcément.
Ouais.
Maintenant, j'ai le droit de le dire. Mais, donc j'ai testé comment écouter de la musique au point d'arrêt, au sol, dans un rafale. Bah, tu prends ton téléphone.
Ouais.
Et tu ouvres ta bouche et tu le colles à ta joue et là du coup les ondes passent et tu entends parfaitement la musique dans ton téléphone.
Okay.
Tu vois, on teste des trucs parce que du coup il y a propagation des ondes sonores. Je suis pas docteur en sciences mais ça marche. Donc, en vol j'ai pas essayé, puis de toute façon le bruit ambiant est trop fort, mais là il y a quand même pas mal de bruit au sol avec la clim tout ça, et donc j'avais testé ça et c'est vrai que des fois bon bah voilà, faut, on écoute. Mais tu vois, ça serait à refaire, j'écouterais tes podcasts.
Ouais. Écoute, je suis hyper touché que tu dis ça et j'espère que tu les écouteras. Sache qu'en plus, en ce moment, il y a un sportif qui s'appelle Stéphane Brognard qui est en plein milieu de l'Atlantique, le traversait à la rame. Il a envoyé un petit message hier en me disant j'écoute tes podcasts, j'en ai un peu plein les fesses, mais en tout cas je me régale et ça me fait passer le temps, donc tu vois.
Ah, sympa, excellent.
Donc ça, en tout cas ça me touche.
Écoute mais... au milieu de l'Atlantique, c'est génial.
Et pour clore un petit peu avec le sujet de l'enfance, parce qu'après j'aimerais bien passer sur la sélection, parce que c'est quand même le gros mythe dans l'aviation. Et moi, j'ai une image marquante de mon père qui m'a, je pense, obligé à regarder 10 fois Top Gun. Et je pense qu'on a dû te poser, toi, 100 fois la question.
102.
Est-ce que c'est un film que t'as vu? Est-ce que c'est un quelque chose qui a marqué une génération? Est-ce que tu penses que ça, il y a eu un mythe suite à ce film?
Bah, les statistiques le prouvent en termes de recrutement, mais complètement. Moi, j'ai la chance, si on peut dire, d'être né le mois de la sortie de Top Gun dans les salles en France. Donc, tu vois.
Okay,
et l'année du premier vol du Rafale dans sa version proto. Oui, ça a marqué la scène d'ouverture, elle est tout simplement mythique. On attend la sortie de Top Gun 2 cet été, j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour la scène d'ouverture parce que ça va être dur de faire mieux, même si les images de ce qu'on a vu des bandes d'annonces vont être superbes. La scène d'ouverture, la musique, l'ambiance, la fumée, enfin tout est parfait. Donc ouais, ça a non seulement marqué une génération, mais ça a motivé une génération de professionnels.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'on est des grands consommateurs pendant la formation pour garder la motivation de tout ce qui est matériel motivationnel.
Ouais.
Qu'on a tendance à appeler dans le milieu le jet porn.
Okay.
Donc en fait, c'est jet porn, c'est quoi? C'est des vidéos montées d'avions de chasse avec de la musique dessus. Et quand t'es élève ou autre et que c'est difficile, bah, tous les soirs, on se faisait au moins 90 minutes, au moins en fond, tu vois, sur tous les écrans. C'est des avions de chasse en boucle. Pourquoi? Parce que ça te motive. T'es élève, t'es en train de bosser les bouquins pendant 9 mois ou autre. Et bah, ton objectif, c'est ça. Et en fait, on se montre cet objectif en continu. Et Top Gun, c'est même un film qu'on se passe sur le porte-avions de temps en temps. Parce que ça permet une petite prise de recul et ça nous ramène face justement à nos rêves d'enfant. Et ça te permet de, tout simplement de profiter un peu du moment présent et puis aussi de rester motivé au quotidien parce que il y a un déplacement de la norme en tant qu'être humain. Je pense que on a tous vécu, mais quelque chose qui te fait rêver pendant 15 ans, une fois que ça fait 2 mois que tu le fais, ça devient la routine.
Ouais.
Et le fait d'avoir recours à Top Gun, ça nous permet de prendre de ce recul et de se rappeler où était notre norme avant et de reprofiter de ce qui est maintenant devenu la routine.
Ouais, et puis en plus, il y a un petit côté aussi starification, je pense, du pilote. Et c'est pas facile quand t'es sur un bateau et que tu vois personne pendant combien de temps t'es parti. Je pense des plusieurs mois... peut-être un peu plus même, mais il y a un petit côté aussi qui fait plaisir de sentir que t'as un peu de...
Oui, il y a ce côté-là qui est sympa, mais c'est... Tu vois, dans l'armée, on est ce qu'on appelle, enfin moi j'étais formé par l'US Navy, ils ont une expression pour ça, c'est quiet professional. Donc c'est des professionnels discrets. Ouais. C'est même ce qui gêne, tu vois, moi dans ma reconversion derrière vers la conférence, tu viens pas naturellement parce que t'es tellement habitué à être discret sur ce que t'as fait et une certaine pudeur vis-à-vis du métier que te mettre en avant, et je pense que les sportifs, ça va être assez pareil, les gens que t'as rencontrés, c'est pas forcément naturel de venir en parler comme ça. Donc ce qui fait qu'on n'est pas vraiment à la recherche des paillettes, c'est pas l'idée, mais on est à la recherche de motivation intrinsèque pour tenir quand c'est difficile. Et okay. Top Gun nous fournit toujours directement cette motivation. Et tu te dis, en fait, t'es spectateur de ton propre métier. Ouais. Parce qu'il faut être franc, quand t'es dans l'avion avec une charge de travail très élevée, tu profites pas forcément de l'instant présent. Tu vas profiter après coup. Et quand tu vois un film ou un reportage, on aime tous voir un reportage télé sur notre industrie ou autre, tu dis, ah, c'est quand même cool ce que je fais et tout. Ouais. Ça te permet cette prise de recul et ça te valorise d'une certaine manière, effectivement.
Ok. Et, tu t'en as super bien parlé parce que je m'attendais pas à une réponse aussi détaillée. On aurait pu blaguer un petit peu dessus. Mais, il y a une des choses qu'on voit un petit peu dans le film, on le voit très peu, mais c'est comme je le disais, c'est la difficulté de la sélection et un peu le. On voit à quel point c'est un certain élite et les places sont chères. Il y a un côté un petit peu. Vous êtes super doués les gars, vous êtes tous des génies, mais il y a quand même énormément de boulot. Est-ce que tu peux raconter un petit peu le processus de sélection et quelles sont les compétences qui sont nécessaires?
Bien sûr. Il y a différentes formations et différents cursus pour faire pilote de chasse. Alors déjà, pour les jeunes qui écoutent, il n'y a pas besoin de faire maths-spé polytechnique. Ah. Un de mes meilleurs copains est polytechnicien. Mon compagnon de chambre au combat était polytechnicien, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Il y en a et ils sont très bien. Mais moi, je suis rentré directement en post-bac.
D'accord.
J'ai posé mon dossier courant terminal à l'heure actuelle pour pouvoir postuler. Donc, il y a deux types de contrats. Il y a officier sous contrat, ce que j'ai fait. T'as un CDD de 13 ans avec l'armée que tu peux prolonger sur 25 ans. Moi, j'ai fait 13 ans. Et tu as officier de carrière, un CDI avec l'armée qui a plus tard des vocations de commandement, voire au commandement, chef de bateau dans la marine, chef de base dans l'armée de l'air, où là c'est maths-spé, école de l'air ou école navale, donc le cursus grande école d'ingénieur. Mais si tu veux faire officier sous contrat, ton boulot c'est piloter un avion, pas besoin d'avoir fait, comme je te disais, maths-spé, même si le gros, on va dire 80% des gens recrutés dans la marine ont un bac plus 3 minimum, là si tu as la maturité nécessaire à 18 ans, tu peux rentrer.
Okay.
Et donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai postulé en terminale, ça faisait 2 ans que je me préparais, j'ai tout appris sur tout, j'ai fait du sport, de l'anglais, la totale, j'ai bien identifié le milieu et les conditions de recrutement avant, et j'ai mis toutes les chances de mon côté, ce qui est la base dans l'aérien, sinon tu vis pas très longtemps, donc c'est ce qu'ils recherchent en fait.
Il y a quand même une grosse partie d'apprentissage théorique quoi.
Il y a une grosse partie d'apprentissage théorique, mais il y a surtout une grosse partie d'état d'esprit.
Okay.
Quand on embarque, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de responsabilité absolue, où on dit t'es seul maître après Dieu. Mais ça, c'est très vrai. Et ce qu'on veut, en fait, c'est que ça soit moteur à la curiosité intellectuelle.
Ouais.
Si je te dis, demain, tu dois prendre un bateau et traverser l'Atlantique. Si tu dis, ouais, cool, et t'attends d'appareiller pour commencer à te poser des questions sur comment ça marche, tes chances de résultats sont plus petites que si tu passes toute la nuit ou 2 mois avant à tout apprendre sur tout. Pourquoi? Parce que du coup, tes chances de réussite seront plus grandes. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. On veut des gens qui, naturellement, d'eux-mêmes, aient ce réflexe de se dire,
comment est-ce que je fais?
Je risque d'être confronté à telle situation ou telle situation. Je veux tout maîtriser sur mon environnement.
Okay.
À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un être humain comme toi ou moi, on va aller s'installer sur un siège éjectable qui est, en fait, un gros explosif, le tout dans un avion qui est rempli par 10 000 litres d'essence et que tu montes tout ça à 15 km de hauteur et ce qui te sépare d'une chute de 15 km, c'est une petite verrière toute fine. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu vas être à l'aise dans l'avion?
Je pense que la connaissance de mes capacités, la connaissance des capacités de l'avion aussi.
Exactement.
La gestion du stress.
La compréhension de ton environnement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut faire des maths pour être pilote? Parce qu'il faut tout simplement comprendre pourquoi tu peux voler.
Ouais.
Un avion, ça s'appuie un peu sur l'air, mais ce qui fait vraiment voler l'avion, c'est la dépression. T'es aspiré vers le haut, c'est un phénomène physique. Mais plus tu comprends ton environnement, plus t'as sa sensation de maîtriser, plus tu vas être efficace, plus tu vas être serein, plus tu vas pouvoir te concentrer sur ta mission. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette partie d'apprentissage théorique. Parce que du coup, au final, c'est un moyen de gérer le stress aussi et la peur.
Okay. Donc, ça permet de se rassurer. Ouais.
Ça permet de se rassurer et ça permet d'être plus efficace. Si tu maîtrises complètement ton environnement, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vas le détecter. Si maintenant tu n'as pas cette maîtrise, cette volonté de maîtriser l'environnement, quelque chose ne va pas, tu vas pas forcément le voir, et du coup, bah, la petite boule de neige va grossir, et on va perdre un avion à 100 millions d'euros, et peut-être le pilote, parce que, bah, il savait pas que ce bruit-là venant du moteur, c'est pas une bonne chose. Ouais. Donc, tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, c'est un état d'esprit qu'on essaye de détecter chez les gens, et ça, tu le vois tout de suite en quelques questions.
Okay.
C'est, okay. Dans les entretiens, tu le vois tout de suite en quelques questions, tu vois la personne qui a cet état d'esprit, surtout maintenant, tu tapes, sélection pilote ou à rafale. Ouais. Un jeune qui vient me voir, et j'en ai souvent, qui me dit, ah, j'ai envie d'être pilote de chasse depuis toujours. Je dis, ah, c'est cool. C'est ce qu'on a comme avion. Ah ouais, on a le Rafale, Mirage 2000, machin. Ah, c'est cool. Tu sais les moteurs du Rafale? Non. Genre, ça va être le quatrième item sur Wikipédia, tu vois. Ça fera même 88. Enfin, tu vois. C'est bien, mais il y a encore un peu de travail. Ouais. Donc, la personne qui dit après, je suis ultra motivé, bah, prouve-le-moi comment par ton travail. Donc, okay. Nous, ce qu'on recherche, c'est des gens un petit peu casque à pointe et qui travaillent énormément. Ouais. Et donc, la sélection va être beaucoup autour de cet état d'esprit.
Ok, d'accord. Est-ce que vous avez vu après coup, est-ce qu'il y a, tu sais, certains profils de personnalité du coup qui se retrouvent plus? Il faut être, je pense, des personnes très rationnelles, un peu scientifiques, très organisées, et peut-être un peu, il y a peut-être une certaine introversion par rapport à ça.
Alors, c'est ce qui,
je suis vachement dans le management en ce moment, donc je vois. J'essaie un peu d'en regarder.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, t'as tout type de profil. Dans une unité de combat, t'as vraiment tout type de profil. Moi, je dis la chose qui relie tout le monde, c'est la motivation.
Ouais. Okay.
Ça, c'est indéniable. Après, on va dire dans les capacités de base, tu as le sport, qui est quand même important, les capacités physiques qu'on choisit pas.
Ouais.
Là, c'est un peu la loterie, faut être honnête. Et ensuite, tu as l'anglais. L'anglais, c'est très important, surtout dans l'aéronaval, particulièrement dans l'aéronaval, parce qu'on fait notre formation aux États-Unis. Et après, de manière générale, les pilotes sont plutôt extravertis, ce que les Américains appellent les type A, des personnalités de type A, donc c'est assez extraverti, assez leader, tout ça. Ça, c'est, il y a quasiment que des type A, faut être honnête.
Ah ouais?
T'as énormément de type A. Énormément de type A. Dans la chasse. Après, il y a des pilotes d'hélico, il y a des pilotes de transport, mais dans la chasse, c'est principalement des type A, un petit peu plutôt tendance à avoir un ego plus ou moins bien placé et un peu grande gueule.
Ouais.
Et ça va être une sorte de, en fait, leur amour propre. Faut être franc, notre amour propre est une sorte de fuel pour la performance.
Bien sûr.
Et donc on va quand même rechercher ça, mais ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui ait le bon niveau d'ego et d'amour propre versus le bon niveau de remise en question. Mmh. Et tu disais tout à l'heure, suite à Top Gun, on nous dit qu'on est des super dieux et tout. En fait, c'est exactement l'inverse. À mon premier jour dans l'armée américaine, ils nous ont dit, les gars, ça fait combien de milliers d'années que l'être humain est bipède? Donc, je sais pas, ça fait quelques milliers d'années qu'on marche. Ouais, tout à fait. Ça fait combien d'années qu'on pilote? Ça fait 100 ans que l'être humain, en gros, arrive à monter dans un avion. Est-ce que vous croyez que vous êtes fait pour piloter? En fait, non, du coup, c'est sûr, vu comme ça. Donc, à partir du moment où t'es dans un avion, t'es ton pire ennemi.
Ouais.
Ton oreille interne n'est pas d'accord avec ton cerveau. Enfin, tu vois, tout va chercher à te tuer, en fait. Okay. Et donc, du coup, ce qui fait un bon pilote de chasse, c'est la personne qui comprend que oui, peut-être, elle a des bonnes capacités, mais elle est son pire ennemi, et du coup, il faut qu'elle s'auto-analyse en permanence et qu'elle accepte d'être dans un apprentissage continu, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et donc, c'est cette dichotomie entre « oui, je suis vachement sûr de moi » et ce qu'on appelle chez les Nord-Américains le « beginner mindset ».
Okay.
Cet état d'esprit qui est que tous les jours, tu sais que tu vas apprendre quelque chose, et du coup, tu gardes des neurones ouverts et tu gardes une certaine plasticité intellectuelle.
Ok, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, je recrute des gens aussi dans mon équipe et j'adore ce beginner mindset de se dire à quel point je peux être capable de redevenir un débutant sur un autre sujet. Tu vois, je peux maîtriser le podcast très bien. Et si demain, je dois faire de la vidéo, je dois réapprendre à être un débutant, à réapprendre tout. Et ici, on coach aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc, et je pilote une petite équipe qui est chargée de les accompagner. Et pour un entrepreneur, je crois que toi, tu connais bien cet univers-là. C'est le beginner mindset, c'est une super compétence. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on teste un peu le beginner mindset chez quelqu'un? Tout à l'heure, tu parlais de quelques questions qu'on peut poser. Est-ce que tu as un ou deux tips à me donner?
Alors nous, ça va être surtout, on va s'en rendre compte en vol, ça va être la capacité de remise en question. Une personne qui va faire, par exemple, deux fois la même erreur sur deux vols, pour nous, c'est qu'elle n'a pas réussi à Ah, j'ai un anglicisme, je suis désolé.
Vas-y.
Take advantage.
Attirer
profit de son erreur passée. Et du coup, là, ça va être pour nous un signal plus que faible, voire un signal fort qui va dire, ouh, c'est bizarre. Et après, on va aller creuser pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas tiré profit. Soit défaut de méthodologie dans le débriefing derrière, c'est pas quelque chose qu'on a fait relever, mais si nous, on a identifié, on lui a sûrement dit aussi. Soit ça va être une certaine imperméabilité face à ça, et du coup l'ego qui est venu bloquer, et du coup c'était l'ego et beginner mindset, c'est pas très compatible. Donc on va le détecter souvent avec de l'erreur récurrente, okay. Ou alors à l'attitude, ça va se voir, quand t'es tout seul dans ton avion avec ton casque sur la tête et le groin, tous ces signaux faibles physiques ne sont pas vraiment identifiables pour nous, donc on va pas vraiment pouvoir en profiter. Si toi tu fais une remarque à quelqu'un de ton équipe haute et tu vois la tronche qui tire, ça va te renvoyer des signaux faibles s'il en a quelque chose à faire de ce que tu dis ou pas, tu vois. Mais nous, ça, on peut pas l'utiliser. Donc, on va plus être sur l'expérience et rapidement, on va pouvoir s'en rendre compte comme ça.
Ok, génial. En tout cas, merci du petit conseil.
De rien.
En plus, je sais qu'il y a beaucoup parmi les auditeurs, tu vois, qui sont des managers, qui sont des cadres dirigeants en entreprise. C'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs, parce que j'ai une audience très variée. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui sont vraiment intéressés par rapport à ça, par rapport à préparation mentale. Comment est-ce qu'on motive des sportifs, mais comment est-ce qu'on va motiver des équipes? Donc, je pense que c'est super intéressant je recommande déjà les auditeurs d'aller suivre un peu ton travail et ce que tu fais. Pour terminer un tout petit peu sur la sélection, juste casser un mythe, tout ça pour savoir si c'est vrai. Il y avait deux préconçus que j'avais sur la sélection. C'était d'une, la qualité de la vue. C'était pas presque hypermétrope ou un peu plus que, c'était un peu plus que la moyenne, c'était plus compliqué. Et aussi sur la taille, parce que j'avais lu, alors peut-être que c'est complètement faux et complètement un mythe répandu par erreur, qu'aussi on est trop grand, quand s'il n'y a jamais une histoire de siège éjectable, les jambes peuvent taper dans le pare-brise et du coup, ça fait un drame, quoi. Est-ce que ces deux critères-là sont vrais? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est un secret gardé par l'armée et qu'ils veulent pas nous dire?
Non, il y a pas de complot sur ce coup-là. On a des complots dans d'autres trucs. Mais pour la vue, il faut voir les derniers. En gros, c'est à 10 sur 10, il n'y a pas de souci. Mmh. Ça dépend des armées. C'est en train de changer. Il faut être très pragmatique. On est très pragmatique dans l'aérien. Pourquoi tu as besoin de bien voir? À ton avis, pourquoi un pilote a besoin de bien voir?
C'est très simple. Pour voir l'horizon, tu as une horizon à plusieurs kilomètres. Donc, il faut être capable de...
On est sur des bonnes bases. Pourquoi un pilote de combat doit bien voir?
Parce que...
Alors, pense bataille que d'Angleterre.
C'est cible... Pardon?
Pense à bataille d'Angleterre ou...
La cible est particulièrement loin.
Ouais.
Du coup, faut pouvoir la toucher. Aussi parce que...
Comment tu vas détecter l'ennemi? C'est ça? Comment tu vas détecter l'ennemi?
Par sa couleur.
À
la vue, pour les avions.
Moi, j'ai fait 4 ans et demi de super étendard, qui est un avion d'ancienne génération, qui avait pas vraiment un radar RR efficace. Quand on volait en basse altitude, donc on se baladait à 900 km/h, au plus bas en Normandie, on avait des zones où on avait droit de voler à 70 mètres du sol. Et là, on était à 70 mètres du sol, 900 km/h, et notre seul moyen pour détecter des avions ennemis, c'était les yeux. Moi, j'avais de la chance, j'ai 12 sur 10, donc j'arrivais à détecter l'adversaire généralement plus tôt. Le fait de détecter l'adversaire plus tôt, c'était très simple, ça me permettait de manœuvrer en premier et de gagner quasiment, je crois que je me suis jamais fait avoir en BA, en basse altitude, de gagner le combat. Pourquoi? Parce que j'arrivais à le détecter, du coup, je commençais à manœuvrer, j'étais dans une bonne position, au moment où lui me voyait, c'était trop tard. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'une excellente acuité visuelle, et c'est pour ça que sur même la Seconde Guerre mondiale, t'as des mecs qui avaient du 15-10e et qui sont des grands as, parce qu'ils prenaient, ils faisaient la first move. C'est eux qui prenaient la première opportunité. C'est comme si dans la bourse, t'arrivais à avoir la tendance 10 minutes avant tout le monde.
Ouais.
Tu serais riche, quoi. Je pense que on serait au George V, là.
Attends, on est au George V, attends.
J'ai fait une conférence là-bas il y a pas longtemps. Mais maintenant le monde a changé à cause de la croissance exponentielle de la technologie, tout ça, tout allait super vite, on a moins besoin des yeux. On a toujours un peu besoin, mais maintenant on est plus gestionnaire de système et on fait la guerre en regardant nos écrans qui sont à quelques centimètres. Du coup, ils se sont dit, on peut peut-être être un peu plus souple en termes de vision. Tous les Américains, ils autorisent les opérations des yeux. On a des pilotes de chasse qui pas sur la visite initiale, mais après plus tard vole avec des lunettes. Okay. Et en fait, c'est toujours cette demande, pourquoi est-ce qu'on a ce critère-là? Est-ce qu'il faut l'adapter? Est-ce qu'il faut le faire évoluer? Donc moi, je pense que c'est un critère qui va évoluer dans le temps. Il évolue, moi, au moment où je suis rentré, et maintenant, je pense qu'il a peut-être déjà évolué. Mais en tout cas, en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus souples là-dessus parce qu'ils ont cette compréhension-là du combat. T'as un radar RR, t'as pas besoin de... C'est fini la bataille d'Angleterre.
Ok, ok. Et l'histoire de la taille,
c'est... L'histoire de la taille, pour te, ça te fait rire. Mon avant-dernier chef, son nom de guerre, c'était Fémur.
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'il était très grand, il était trop grand pour entrer dans un super étendard. Donc à la fin de la formation, ils se sont rendus compte, oh, zut, en fait, il rentre pas dans l'avion. S'il s'éjecte, ses jambes vont rester dans l'avion. Okay. Donc ça fait le tronc éjecté, c'est moyen en termes de chances de survie. Donc du coup, ils ont dit, on va l'envoyer sur Mirage 2000, qui est un avion un peu plus grand, et après sur Rafale, ça allait. Mais oui, il y a une taille limite qui peut gêner. J'ai même un copain. Il était limite de chez limite, il faisait un 80, enfin il fait toujours, un 80, non. Et lui, il s'était mis un sac à dos, il allait courir avant sa visite médicale pour se tasser un peu. Mythe ou réalité, tu vois, il a eu sa visite médicale, il nous vendait que ça avait joué un petit peu d'un centimètre, un centimètre cinq.
Ok, d'accord. Donc, okay. Et il faisait combien? Il faisait quel
taille? Je crois qu'il faisait un 91 ou un 80, enfin il fait un 91 ou un 92.
Ouais, ça va, donc c'est pas non plus un critère restrictif où tu prends que
Par contre, Tom Cruise est trop petit.
Tom Cruise est trop petit.
Donc, il y a une taille minimum. Et Tom Cruise est juste en dessous, je crois. Donc, mais là, après, il y a un nouveau siège. Enfin, ça dépend. Là, maintenant, tout est pour voler. Mais au début, les sièges d'avion de chasse, c'était pour des hommes. Et on n'avait pas finalisé le métier encore. Et maintenant, c'est un peu mieux. C'est plus pris en compte. Le souci qu'on avait, c'était le poids. Okay. Une personne féminine qui fait 60 kilos, même avec le matos, elle est légère et ça posait des petits soucis en termes de siège. Mais là, je te parle de soucis d'il y a 20 ans. Tout a été réglé depuis.
Okay.
Donc le mieux, c'est ceux qui sont intéressés, c'est regarder l'aptitude médicale. Pour l'aviation de ligne, c'est ce qu'on appelle une visite médicale classe 1.
Ouais.
Et dans l'aviation militaire, c'est une visite chasse. Et ça s'effectue au CEMPN. Donc pour parler aéronautique, ça s'écrit Charlie Echo Mike Papa Novembre. et c'est là où il y en a plusieurs en France. Et quelqu'un, moi ce que je conseille aux gens qui sont lycéens en prépa ou autre, ça coûte quelques centaines d'euros, mais tu vas te faire une visite médicale et au moins après tu sais si c'est une bonne idée de mettre toutes tes billes en postulant dans l'armée ou pas. Moi c'est ce que j'avais fait.
Ok, génial. Écoute, merci en tout cas pour ces petites questions. C'est vrai que j'avais envie de mettre un petit peu tout ça au clair sur ces petites questions un peu de sélection. Je pense qu'il y a des mythes qui reviennent un petit peu souvent, mais ça me permet de bien tu vois continuer sur un autre sujet. Je pense que tu vois là on parlait un petit peu d'aptitude physique. Dis-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai l'impression quand je vois tes vidéos, quand je vois ton contenu, que c'est surtout une histoire d'aptitude mentale. Et qu'il y a énormément de gestion du stress, de visualisation. Il y a beaucoup d'autres outils que tu utilises. Est-ce que vous êtes préparé? Alors, t'as parlé de ce beginner mindset, mais est-ce que vous vous entraînez à tout ça? Et est-ce que t'as des outils que tu peux nous donner aujourd'hui pour justement être plus performant, plus concentré et être de meilleurs athlètes ou meilleurs extraterriens, tout simplement.
Des hommes exponentiels. Complètement. Alors moi, j'ai eu la chance de faire du sport plus ou moins haut niveau avant de rentrer dans l'armée. Je faisais du triathlon, du duathlon, mais j'étais en équipe de France de pilotage de précision. Je fais de la voltige aérienne en compète, tout ça. Et donc moi, j'ai commencé la visualisation quand j'ai commencé en fait la voltige aérienne. Ouais. La voltige aérienne, c'est quoi? C'est du patinage artistique en fait, mais dans le ciel. Donc c'est la même chose. T'as une opportunité de faire un programme connu ou inconnu, donc connu à l'avance au début de la saison ou inconnu, on te tire au sort, t'as pas le temps de préparer. Comment tu vas faire pour être efficace et dérouler les bonnes figures, boucle, retournement, virage sur le dos, tonneau, tous ces trucs-là, de manière parfaite? Y a pas de secret. Il faut que t'entraînes ton cerveau. Comment t'entraînes ton cerveau? Nous, on le faisait naturellement. On fait de la répétition mentale, de la visualisation mentale. Et puis maintenant, les neuroscientistes, ils nous ont dit, vous avez bien fait de faire ça pendant des années parce qu'en fait, ton cerveau fait pas la différence entre ce que t'as visualisé et la réalité. On dit, merci d'avoir intellectualisé le concept qu'on faisait. Mais on va continuer à faire. C'est cool. Merci. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Il n'y a pas de secret, ça marche. Donc moi, j'ai eu la chance de m'auto-former à ça par le sport, par nécessité. Je me suis rendu compte que ça marchait, je l'ai fait.
Tu faisais ça à quel âge?
À partir de 15 ans, à peu près.
Et t'as participé au championnat du monde, en plus.
Alors, moi, j'ai fait les mondiaux de pilotage de précision en 2006. La France, on a gagné ou fait deuxième, je sais plus. par équipe. Et ensuite, derrière, j'ai eu la chance de faire meilleur amateur, championnat du monde de triathlon longue distance à Lorient en 2007, et les championnats du monde de duathlon courte distance aux US en 2009. Okay. J'ai gagné l'US Open de triathlon en 2008. Mais j'étais une quiche en course à pied. Je suis toujours d'ailleurs. Je suis trop lourd. Ah, mais ça, c'est... T'as vu mon excuse? Oh, c'est pas beau. Je me trouve des excuses. Non, c'est pas beau ça. Je retire ce que j'ai dit. Je suis mauvais en course à pied, c'est tout. mais ouais, donc j'ai fait pas mal de sport avant. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais déjà un peu de ces méthodes quand je suis arrivé dans l'armée. Et nous, on a un concept qu'on appelle le chair flying, le pilotage dans ta chaise. Tu te mets dans ta chaise et tu vas imaginer toutes les actions que tu vas faire. Typiquement, imagine t'es dans un avion et là t'as deux moteurs, le moteur gauche tombe en panne. Action réflexe, qu'est-ce que tu fais? Bah, si tu t'es jamais entraîné, même au simulateur, ça va être une catastrophe. Maintenant, si t'as pris le temps de visualiser en amont comment faire, bah, ça va bien se passer. Donc dans l'armée, dans les années 80, il y a une médecin qui a développé ce qu'on appelle les TOP. Je sais pas si t'as déjà entendu parler des TOP, techniques d'optimisation du potentiel, qui est quelque chose qui nous est appris dans les armées. C'est très bien. Moi, j'ai pas vraiment utilisé pour une raison très simple. Je trouve que c'est trop compliqué. Okay. Maintenant, en entreprise ou autre, je suis un grand avionneur français, enfin européen, mardi pour présenter notre méthode à nous qui est un peu différente. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça soit extrêmement simple pour que ça marche. Mm-hmm. Et quand tu veux apprendre à quelqu'un, même typiquement un manager ou un sportif, bah, on a autre chose à faire de notre journée que d'apprendre des méthodes ultra compliquées. Et dans l'aérien, on est très back to basics, retour aux bases. Et okay. Un autre principe, ouais. Le KISS, je sais pas si tu connais le principe KISS, keep it simple and stupid. Ouais. Moi, je précise le end, hein, parce qu'il y en a qui disent, là-bas, c'est keep it simple, stupid. Mais du coup, les gens le comprennent mal et disent, keep it simple, virgule, stupid. Genre, ils t'insultent quand ils te le disent. Non, c'est pas ça l'idée. C'est, faut garder simple et stupide. Faut essayer de faire simple. Et du coup, on a une méthode très, très simple qu'on appelle le RID, respiration, imagerie, dynamisation. Il n'y a pas de secret. C'est, en gros, taper en prise directe dans le cerveau. Tu dois visualiser quelque chose, tu dois faire une prise de parole, tu dois apponter sur le bateau, ça fait longtemps que tu l'as pas fait, tu sais que tu vas partir faire la guerre, ça fait quelque temps que t'as pas tiré une bombe, tu dois te remémorer la procédure, tu dis qu'est-ce que je fais si on me tire dessus, là on est tous les deux dans la salle, qu'est-ce que je fais s'il y a quelqu'un qui rentre avec une arme, tu vois, enfin tu vois, quel que soit le cas que tu veux visualiser, commence par respiration, grand principe de base et ultra simple, si tu fais des respirations profondes, ça va te calmer. Si tu fais respiration courte et dynamique pendant un court temps, ça va t'exciter. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin dans 80% des cas?
Non, je pense pas, hein.
Mais déjà, si les gens appliquaient ces bases-là, ouais. Ils s'endormiraient tous beaucoup plus vite le soir. Ouais. Mais c'est tout bête, mais ça marche, tu vois. Mais des fois, vouloir faire trop compliqué, c'est pas bon. Donc, vraiment, nous, on aime bien faire ultra simple parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Voilà. Donc, t'es stressé. Moi, j'ai déjà fait un début de crise d'anxiété dans l'avion. Je pourrais t'en parler après, si tu veux. Ouais. Donc, grande respiration simple, ça te sauve. Une fois que plus tu te connais, moins t'en fais. Moi, en trois respirations simples, je me fais mon imagerie. Mon imagerie, c'est quoi? C'est tout le monde connaît un peu l'image repère. Il y en a qui disent l'image repère doit être liée à la famille ou autre. Moi, je suis anti ça. Pourquoi? Parce que si tu commences à rajouter de l'émotionnel dedans, c'est pas ce que tu veux. Ouais. Donc moi, mon image repère, c'est ce que je conseille, mais chacun doit avoir sa propre méthode. C'est une plage. Et là, t'as les vagues qui viennent, pas des grosses vagues, hein, des petites vagues, et tu viens caler ta respiration sur le cycle des vagues. C'est sympa, il fait beau, il y a du soleil, surtout en fin d'hiver. Un truc simple, ça te détend. Une fois que tu as réussi à te calmer, tu vois, en gros, à tout simplement revenir dans l'instant présent, ton image a disparu et maintenant tu visualises, tu te dis qu'est-ce qui devrait se passer dans un monde merveilleux. Tu vois le cas merveilleux, le catapultage, la procédure, le machin, c'est comme ça, et tu te le répètes plusieurs fois. Une fois que tu es content avec ça, ce qu'on appelle les what if. Qu'est-ce que je fais si ça ou ça arrive? Et donc là, maintenant, tu viens visualiser, je sors de pont, après le catapultage, donc je suis passé de 0 km/h à 300 km/h en 75 mètres, tout va bien. Là, qu'est-ce qu'il faut que je regarde ma vitesse? Et là, j'ai pas la bonne vitesse. Qu'est-ce que je décide? Bah, normalement, c'est éjection. Donc, du coup, tu visualises, bah, si je ne vois pas la bonne vitesse en sortie de pont, que par exemple, je suis à 10 nœuds, donc 18 km/h en dessous de la vitesse classique, je reste dedans, je mets la post-combustion, je rentre le train, tu vois, je finis ma procédure. Si maintenant c'est plus de 20 km/h en dessous de la vitesse, là c'est éjection, je me mets en arrière, je mets mes doigts comme ça autour de ma main et je tire. Tu vois, donc là tu vas préparer ton cerveau comme ça. Et une fois que tu as fini cette partie-là, moi j'aime bien faire ça le soir, tu repars dans de la respiration souple et tu t'endors.
Ouais.
Ou alors, c'est parti, c'est le moment de l'action, tu repars sur. de la dynamisation, donc respiration courte, et c'est parti, action. Et okay. Ça, on le fait un peu tout le temps, ça devient une routine, ça devient une habitude. Et moi, j'avais développé un petit truc qui marche que pour moi, j'ai jamais vraiment discuté avec d'autres personnes, savoir si elles le faisaient. C'est, je mettais un réveil 1h30 avant mon heure de lever.
Okay.
Et comme ça, t'es un peu entre deux quand t'es fatigué, là, tu sais. Mm-hmm. Et donc, je pourrais pas te dire dans quelle phase de sommeil je me réveillais, mais j'accédais à mon cerveau de manière un peu différente. Ouais. Et en fait, tu te réveilles, là, t'as une idée. Tu fermes les yeux, c'était bien là. Tu visualises un peu et tu peux. Là, j'ai l'impression que ça manquerait l'expérience de manière encore plus forte. Après, quelques minutes après, tu te réveilles, t'as une autre idée et en fait, comme ça, j'ai réussi à m'imaginer plein de scénarios et ce qui fait que c'est toujours très bien passé au combat parce que t'es rarement pris par surprise. Et si t'es pris par surprise, bah, t'avais visualisé en avance. Qu'est-ce que se fait le jour où je suis pris par surprise? Et donc généralement c'est prise de recul.
Ok. Ouais. Et tous ces scénarios là, tu les écris avant, tu les prépares un peu ou tu te dis ok je les laisse aller au fur et à mesure.
C'est très variable. Par exemple le soir ou la nuit, si tu l'écris pas, tu vas l'oublier. Ouais. Maintenant même si tu l'oublies, c'est dans un coin du cerveau, donc ça dépend de l'importance. Moi je mets bien préparer mes missions la veille au soir pendant 2 heures assis tranquille à ma table, à imaginer une multitude de scénarios différents. Et là j'aime bien les tracer par écrit. Pour ceux qui doivent passer un entretien, c'est la même chose. Moi, j'ai passé que 2 entretiens dans ma vie, donc je suis pas un grand expert, mais j'ai fait Marine, je suis rentré, Air Canada, je suis rentré. Après, j'ai pas fait semblant, je les ai préparés, par exemple, pour donner une idée, Air Canada, j'avais environ 120 pages A4 de questions-réponses que je m'étais préparé.
Ok.
Après, je suis rentré dans la boîte, 9 mois après l'entretien, le mec qui m'a fait passer un entretien et qui passe 50 personnes par mois, il se rappelait de moi.
Ouais.
Mais okay. Pourquoi? Parce que tu t'es donné les moyens. Tu vois, et il y a plein de gens qui se pointent aux entretiens un peu voilà quoi, enfin chacun, mais si tu pars du principe que t'as pas droit à l'échec, mais que tu sais pas le niveau requis ce jour-là, parce que quand tu es en entretien tu sais pas vraiment le niveau qui est demandé, t'es d'accord?
Ah ouais.
Quand tu prends un avion, tu connais le cas de l'amérissage dans l'Hudson en 2009?
Celui qui s'est posé dans la rivière.
Ouais, ouais. Film Sully. Ouais. Donc Sully, c'est un ancien pilote militaire. Il participait également aux enquêtes. C'est quelqu'un qui avait ce beginner mindset, qui a le beginner mindset, et qui chaque jour essaye de s'améliorer alors qu'il a dépassé le niveau de standard de son industrie. Pour être pilote de ligne, il faut un certain niveau de standard. Pour pouvoir faire un vol de A à B, il faut un certain niveau de standard. Mmh. Et ce qu'on demande à notre industrie, c'est que les pilotes soient capables d'aller de A à B en gérant une ou plusieurs pannes.
Okay.
Donc en fait, imagine sur une droite verticale, t'as un certain niveau de standard qui est le standard où tout se passe bien tous les jours, et après t'as le standard requis pour être pilote de ligne, donc c'est peut-être 70% au-dessus, tu vois, et ça, si tu as ce standard-là, tu es pilote de ligne, tu mérites ta place, tu passes les examens, et on est retesté tous les 3 à 6 mois,
ouais.
Là, tu peux être pilote de ligne. Maintenant, quand tu prends l'avion, et que t'es, voilà, que t'as un peu notre mentalité de pilote militaire, parce que t'as été au combat, tu sais pas le niveau de l'adversaire. Mmh. Tu sais pas, quand tu fais du MMA ou de la boxe, ou pour les sportifs qui font de la boxe, tu connais pas vraiment le niveau de l'adversaire.
Ouais, donc,
est-ce que tu peux te permettre d'aller à un niveau de standard sur le ring?
Ah non.
Tu sais pas si tu vas gagner.
Tu joues pas là.
Voilà. Donc du coup, l'état d'esprit actuellement même. Donc du coup, tu te dis, ok, le standard de mon industrie est là, mais moi je suis obligé d'essayer de créer de la valeur et d'être de plus en plus fort, de manière à, le jour où pour survivre, il faut que je sois peut-être 40% au-dessus du standard, moi j'y serai. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Sully. Il était complètement en dehors de la formation, du training, tout ça, mais ce mec-là avait travailler sur sa valeur propre et était meilleur. Et ce que je veux dire, c'est quand tu prépares un entretien, c'est pareil. Peut-être qu'il y a un certain niveau pour passer l'entretien, mais est-ce que tu veux prendre le risque d'être tout juste à ce niveau, ou est-ce que tu veux avoir zéro regret derrière et surpréparer l'entretien et arriver et massacrer l'entretien et t'as peut-être perdu 200 soirées parce que t'as bossé tous les soirs pendant 200 soirées, mais si t'avais pas fourni l'effort, est-ce que t'aurais eu la place, tu vois?
Ouais.
Donc nous, c'est un peu ça l'état d'esprit. On est un peu dans de la surpréparation en amont,
ouais,
parce qu'on veut pas prendre de risque, parce qu'on peut pas se permettre.
Okay.
De pas réussir la mission. Quand t'es pilote de porte-avions, t'as 3000 personnes à la mer pendant des fois 5 mois pour que 10 pilotes de chasse soient au-dessus de l'Irak chaque jour.
Mm-hmm.
Est-ce que tu peux prendre le risque de pas parfaitement réussir ta mission? Même vis-à-vis des troupes au sol qui demandent ton aide, parce que moi, toutes les frappes que j'ai fait, c'était pour sauver des forces spéciales au sol. Et vis-à-vis de 3000 personnes à la mer qui font un sacrifice familial et qui sont à l'usine de traitement des déchets du porte-avions Charles de Gaulle sans voir le jour pendant 4 mois, quoi.
Ouais.
Il y a de tout sur un porte-avions. Et donc, du coup, t'as une responsabilité vis-à-vis d'eux aussi. Donc, t'es obligé d'arriver au meilleur niveau possible.
Ouais.
Voilà. Enfin, petit aparté.
Non, c'est génial. Écoute, t'as parlé un petit peu des scènes de combat. tu vois, je vois d'un côté chez toi, effectivement, il y a un côté où t'adores la performance et t'es dans un domaine où effectivement qui est extrêmement exigeant, où il y a énormément besoin de performance. Mais là, tu rentres quand même dans un contexte de guerre, tu vois. On joue pas, on n'est pas en train de faire du sport, on n'est pas. Et moi, je voulais un petit peu savoir comment est-ce que tu prends du recul par rapport à ça, parce que bah tu l'as dit, t'as dû faire des frappes, t'as dû tirer sur l'ennemi. Comment est-ce que tu te prépares un petit peu à ça, et comment est-ce que tu t'appréhendes un petit peu la question?
Alors moi, j'ai eu énormément de chance, si on peut le dire comme ça. Pendant le moment où je suis parti en guerre, donc nous on a parié 2 jours après le Bataclan.
Ouais.
Je suis parti en guerre de fin 2015 à début 2016. C'était toute la reprise de Ramadi en Irak et toute la protection du Kurdistan au nord. On a parié 2 jours après le Bataclan, donc il n'y avait pas vraiment de questions à se poser en termes de légitimité. Je connais des gens qui ont été touchés et tout. Même ma sœur, qui est pas forcément grande fan de l'armée, elle m'a écrit, elle est parisienne, elle m'a dit ouais, bah, allez-y et tout. Genre, il y a des moments où t'as pas de doute, quoi. Donc là, on va dire, du point de vue éthique ou autre, on avait l'histoire, si on peut dire, avec nous. Il y a, pour une fois, vraiment, tu sentais qu'il y avait un élan national qui nous crédibilisait dans notre action. Là, à l'instant T où je te parle, j'ai des amis au-dessus de l'Irak. C'est triste à dire, mais il n'y a pas grand monde même qui est au courant. Ouais. Et il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Mais moi, j'ai eu la chance de partir au combat à un moment où, voilà, c'était le truc à faire. Donc, il y avait peu de questions à se poser là-dessus. Et le point un peu original, c'est que dans le cadre de ma reconversion, j'ai commencé à préparer ça. Je faisais une licence en sciences de l'éducation, par correspondance à l'université Paris 8, et j'avais beaucoup de philo. Et du coup, moi, le soir, je faisais de la philosophie. Donc, je partais 8 heures de mission de guerre, quelques frappes, des ravitaillements, un pontage de nuit et tout. Puis le soir, il fallait que j'avance mes devoirs. Donc, je faisais la mer suffisamment bonne de Winnicott, tu vois, et en termes de prise de recul, t'es servi. Okay. Et c'était vachement intéressant parce que j'ai pu mixer le côté purement universitaire théorique très français avec le côté action pure. Et ça m'a permis automatiquement de prendre un recul fou sur ce que je faisais. Là où j'avais vu certains copains, on en parlera peut-être après. Tunnéliser un petit peu sur le combat ou voir revenir énervé de vol parce que c'est pas eux qui avaient pu frapper. Et donc ça permet de garder du recul. Et moi j'ai un peu toujours construit ma carrière et ma manière de fonctionner sur la prise de recul. Et c'est extrêmement important au combat. On parlait tout à l'heure du déplacement du standard. Tu te rends compte que l'être humain s'habitue très très vite à la guerre.
C'est
important, très important de prendre du recul, surtout quand t'arrives avec un effet militaire assez important, parce qu'faut appeler un chat à chat quand t'arrives, que t'es leader d'une patrouille de 2 rafales avec de l'armement, tout ça, tu vas impacter ce qui se passe au sol.
Ouais.
Si tu fais bien ton travail, tu vas faire une différence. Donc ça, c'est un mix entre un sentiment extrêmement grisant de toute puissance. Faut appeler un chat un chat. T'arrives, t'as un peu pouvoir de vie ou de mort. Hein.
Ouais.
Donc un sentiment de toute puissance, une responsabilité extrême vis-à-vis des troupes au sol que tu vas aider, de leur famille. Moi, j'étais papa à cette époque-là et tout. Et souvent, quand j'allais aider des forces spéciales, je pensais ça, ouais. Moi, j'aime bien cette expression, c'est soit un père ou une mère, soit un père ou une mère en devenir.
Ouais.
Pour la petite histoire, moi, je suis né après une éjection. Mon père s'est éjecté en Mirage 3 et après l'éjection il s'est dit tiens je vais faire des enfants, mais sans le siège éjectable, moi je serais pas là, ma sœur serait pas là, mes enfants seraient pas là. On a déjà 8 vies, tu vois, juste sur un siège éjectable. Je veux dire, c'est que j'ai toujours eu cette conscience, parce qu'il m'a dit cette histoire quand j'étais ado, c'était pas un bon moment pour me le dire d'ailleurs, mais j'ai toujours eu cette conscience que des fois une fraction de seconde, et c'est vrai, mais va impacter ce qui se passe et va impacter des vies derrière. Ouais. Et moi c'est quelque chose qui était très présent, peut-être à cause de la philo que je faisais le soir, mais c'était très présent sur le moment. Donc ça c'était quelque chose. Ça dépend comment tu le vois, en fait, mais c'est presque quelque chose de beau où tu te dis, là, je peux vraiment aider, je peux vraiment. Mais d'un autre côté, ça peut être quelque chose de destructeur.
Okay.
Ça dépend comment tu le vois. Ouais. Donc, moi, le fait de faire de la philo et de garder vachement de recul parce que je pensais déjà un peu reconversion, tout ça, ça m'a aidé de le voir de la bonne manière, je pense.
Ok, génial. T'as abordé le fait que les missions pouvaient durer jusqu'à 8 heures de vol. Alors, pendant 8 heures, t'as besoin de boire, t'as besoin de manger, t'as besoin de, de déstresser. J'imagine que vous devez suer des litres et des litres d'eau.
On a la clim maintenant, mais sur mon ancien avion, on n'avait pas la clim.
Okay. Il devait faire très très chaud parce que quand t'as 1000 litres d'essence et un moteur extrêmement puissant qui chauffe, ça doit se ressentir dans le cockpit. Quoi.
Le plus gros moteur, c'est le cerveau. Hein. C'est celui qui est dans le casque et c'est lui qui chauffe le plus souvent.
Ouais. Comment est-ce que tu fais refroidir tout ça d'ailleurs durant un vol?
Alors en fait, en termes de température dans un Rafale, on n'est pas trop embêté. Il y a la climatisation, donc ça va. Ouais. On a tendance à mettre l'air un peu froid de manière à garder des idées fraîches. Pour ce qui est de l'hydratation, c'est un vrai problème. Okay. On n'a pas tant de place que ça, contrairement à des gros avions américains. Moi, j'avais une gourde de 1 litre. 1 litre pour, en gros, 8 heures dans l'avion, c'est pas énorme. Et puis après, venant du sport, j'irais ça comme un triathlon longue distance. En sachant que d'un point de vue calorique, c'était quand même moindre. Donc, ce que je faisais, c'est, je prenais des barres protéinées pour stabiliser ma glycémie.
Ouais.
Et après, je prenais une barre aux glucides avant la pontage finale pour, en gros, redynamiser un petit peu le moteur. Donc, j'avais une gestion comme ça sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que 8 heures, en fait, c'est une journée de travail.
Ouais.
Au final, ouais, pour nous, avec la préparation avant et tout.
Je me rends pas compte, tu vois, s'il y a des pauses, tu vois, ici, ouais, tu peux descendre, boire un café, mais
c'est
ça, mais aller aux toilettes.
C'est exactement ça. Il faut se faire des pauses.
Ouais.
C'est-à-dire que la personne qui te dit, moi, pendant 8 heures, je suis au taquet tout le temps, c'est un menteur, quoi. En fait, c'est même pas que c'est un menteur, c'est que c'est quelqu'un de dangereux. Pourquoi c'est quelqu'un de dangereux? Parce que je te parle de cette capacité d'auto-analyse, et c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est son ego ou quoi, ou sa stupidité, mais il se ment à lui-même. Donc tu fais, non, mec, attention, tu me dis que pendant 8 heures t'es au taquet, moi je monte pas derrière dans ton avion. Même dans ta voiture. Non, tu vois.
Okay.
Si tu montes, tu fais un blabla car, tu montes à côté du mec qui descend à Marseille, il dit, ouais, moi je suis à fond jusqu'à l'arrivée, t'inquiète pas. Ouais, alors comment te dire?
Soit tu t'es dopé.
La science prouve que maintenant c'est pas possible, mon gars. Donc on va faire des pauses. Toutes les 2 heures, hein, pour ceux qui sont sur la voiture, là, qui sont en route. Mais donc du coup, nous, on se crée artificiellement presque des moments de réduction de la charge de travail pour pouvoir tout simplement maintenir notre potentiel élevé au bon moment. Donc la manière qu'on a de se représenter ça, tu parlais tout à l'heure de l'essence, tu as une mètre des gaz sur la gauche. Dans un avion, je pense que dans Top Gun, on voit, il bouge la main gauche, ça met des gaz. Ça met des gaz, ça donne de la puissance.
Ouais.
Rafale, plein réduit. Alors, s'il y a des écologistes qui nous écoutent, bouchez-vous les oreilles pour les 25 prochaines secondes. Et disclaimer, je ne pilote plus de Rafale, m'en voulez pas. Donc, la manette des gaz, plein réduit sur Rafale, on consomme à peu près 7 litres minute pour les deux moteurs. Et on pousse, en termes de poussée, à peu près 200 kilos. Ça te parle pas beaucoup, là, mais tu vas comprendre. Si tu es à 100% au niveau de la manette des gaz, à basse altitude, parce que c'est très variable, je te dis à basse altitude, parce que les chiffres sont plus impressionnants, tu vas consommer, en gros, 250 litres par minute, et tu vas pousser 10 tonnes. 200 kilos versus 10 tonnes. Maintenant, si tu mets ce qu'on appelle la post-combustion, les grosses flammes qu'on voit derrière, tu viens injecter de l'essence directement dans la tuyère, donc là, c'est très énergivore, mais là, tu augmentes de 50% la poussée, donc t'étais dans les 250 litres par minute, là, maintenant, tu passes à 600 à 800 litres par minute.
D'accord.
Mais tu pousses 15 tonnes de poussée, c'est énorme, hein. On était à 200 kilos, là, maintenant, on est à 15 tonnes. Donc, avec notre main gauche, on sait, en fait, qu'une position de la main correspond à une puissance qui correspond à un nombre de litres par minute.
Okay.
Je pars faire la guerre, j'ai 8000 litres. Je sais que je vais avoir 4 ravitaillements qui vont me donner 6000 litres toutes les 90 minutes. Mon objectif à moi, c'est quoi? C'est d'être gestionnaire de mon rapport, en fait, poussé carburant. T'es d'accord? Donc, j'ai des écrans devant moi, c'est très simple. Je vois quand ils sont pas en panne, mais ils sont rarement en panne. D'ailleurs, jamais eu de panne là-dessus. Merci Dassault. Mais, placement de produit, mais non. Carrément, ça marche vachement bien. Non, c'est bluffant. Il marche super bien cet avion. Mais tu vois ta consommation de carburant et tu vois le carburant qui te reste. Donc, c'est super facile, en fait. Et tu sais quand tu vas ravitailler. Maintenant, fais un parallèle avec ta forme physique. Tous les matins, tu te lèves et en fait, il faut que tu arrives à développer cette capacité d'auto-analyse de qu'est-ce que j'ai dans le réservoir pour aujourd'hui.
Okay.
Et il faut que tu arrives à savoir comment je peux ravitailler. Un week-end, ça peut être un ravitaillement. Des vacances, ça peut être un ravitaillement. Une sieste, boum, plus 20 points d'énergie, appelle ça comme tu veux. Mais
en fait, aussi peut-être des petits coups de flamme avec, je sais pas, une douche froide ou un truc.
Ouais, mais non, mais voilà. Mais et du coup, derrière, qu'est-ce qu'il faut? Nous, on a toujours une réserve. La fameuse que tu entends dans les films, la réserve de guerre et tout. On se bat jamais avec zéro essence. Pourquoi? On va faire un peu d'anglicisme. Comment tu dis brûler du carburant en anglais?
Burn fuel.
Burn fuel, ouais. Et une fois que t'as tout brûlé, t'es
Empty.
Ouais, t'es burn out.
T'es burn out, ouais,
tu vois. Donc,
ouais.
Tu vois. Donc, en fait, au quotidien, nous, en tant que gestionnaire dans notre avion, on gère notre manette des gaz. On sait exactement où on en est. Et moi, ce que je disais à mes mecs, c'est, tu fais le parallèle avec ton énergie dans l'avion. T'es parti pour 8 heures, tu t'auto-crées des moments de ravitaillement. Et surtout, tu t'écoutes et tu te demandes, là, bah, j'ai commencé ma journée avec combien de points d'énergie?
Ouais.
Moi, j'adore, je suis très chiffre et tout, hein, mais voilà, s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, tu peux marcher avec ça au quotidien. Tu te réveilles le matin et tu te dis, je suis à combien de pourcents?
Ouais.
Okay. Le mec qui me dit, je suis à 100% tous les jours, pareil, je lui dis, on va retravailler la méthode d'auto-analyse. mais tu vois, tu te dis, j'ai combien de pourcents aujourd'hui? Et du coup, tu sais, par exemple, que venir faire un podcast, ça va me prendre 20 points, peut-être 20% de mon énergie. Après, parler à ma femme, ça va me prendre 45 points d'énergie, tu vois, parce que ça, non, je rigole. Mais tu vois, aller faire une séance de sport, ça me prend tant de points. Et après, tu peux te faire des branches et tu peux même commencer à tout voir un peu comme ça. Moi, j'aime bien dire aux gens, tout le monde connaît les Google Glass. Ouais, imagine, ouais. Tu parlais de management tout à l'heure, tu mets tes Google Glass et là tu regardes ton staff, tu vois leur point d'énergie, un peu comme si on joue à Tekken. T'as tes points de vie, t'as ton mana, tu vois, t'as ton énergie. Et c'est pareil, tu mets tes Google Glass et là tu vois ton équipe, tu sais leur point d'énergie, leur point d'alignement à la mission que tu leur as donné, leur point d'énervement et encore mieux que ça, t'as leur vecteur vitesse.
Ouais,
et okay. Tu sais dans quelle tendance ça va. Et toi, du coup, tu vas pouvoir influer ça et tu vas pouvoir te dire, ouh, bah tiens, être parti d'autonomie, moi, mes points d'énergie, ils sont pas très bons, là, j'ai besoin d'une pause. Et bah, je vais me prendre 3 minutes de pause.
Okay.
Tu vois, ouais. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, on peut en fait faire des parallèles et fonctionner constamment comme ça et c'est vachement efficace.
Okay.
T'arrives au boulot le matin, t'as un de tes mecs qui est plutôt du matin qui a l'air complètement dépité. Bah, si t'avais tes Google Class, tu verrais energy level, il est tout en bas, et motivation, il est tout en bas, et en gros, efficacité militaire ou efficacité business critique. Ouais. Du coup, action, qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de passer à côté de lui et de lui laisser un café. Et lui souhaiter une bonne journée. Si je commence à lui demander ça va pas, le mec ça va le saouler, tu vois. Directement, il va se défendre. Mais là, ah non, tiens, je vais juste passer, lui laisser un café et lui souhaiter une bonne matinée, je vais pas le faire chier. Et là, du coup, vecteur vitesse, et le mec il va redevenir productif.
Génial.
Donc tu vois, c'est des petites méthodes qui arrivent tout droit de la gestion de l'énergie dans l'avion de chasse.
Bah, génial, génial. Écoute, j'adore, c'est vraiment, vraiment top. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Il y avait un autre sujet que t'as rapidement abordé qui m'intéressait beaucoup. C'était sur le débriefing. Et justement, pour ce niveau d'énergie, c'est à la fois sur le débriefing et à la fois sur la team dans l'avion. Enfin, comment est-ce que ça, un petit peu, l'entente qu'il peut y avoir? Parce que quand, on sait tous que quand tu passes 8 heures dans 3 mètres carrés avec une personne.
3 mètres carrés, t'es sympa.
je grandissais un peu le chiffre, tu vois, pour que les gens puissent s'en rendre compte, parce que c'est encore plus petit. Bon, on va dire un ascenseur. Est-ce que justement tu dois aussi peut-être pas par moment lui masquer certaines informations pour pas lui faire peur, ou est-ce qu'au contraire tu vas être 100% transparent pour que lui ait toutes les informations et que lui derrière puisse composer par rapport à ça, avec potentiellement effectivement le risque que lui aussi son level d'énergie au moment où tu lui dis que toi t'es très faible, ben que lui aussi, il le soit aussi. Comment est-ce que l'interaction elle se fait, et après comment est-ce que ça se transforme dans le débriefing, et nous expliquer un petit peu
bien sûr
exactement ce processus.
Donc moi j'étais sur monoplace quand j'étais au combat, donc tout seul dans mon avion, mais on part jamais seul au combat, donc on était toujours par équipe de deux, donc on peut pas se voir ni se toucher, on est deux avions en vol l'un à côté de l'autre, mais on va travailler en équipe. Donc le leader et le wingman dans l'armée, okay. Ça c'est très important. Et donc on a pour ça qu'on a ce concept de followership, suivre l'autre aéronef. Et donc cacher des informations ou pas, ça va être extrêmement variable. On n'est pas dans cette notion de vouloir vraiment cacher de l'information, et plus dans cette notion des fois de, on n'a pas le temps de partager certaines informations.
Okay. Ouais.
Exemple, là on est tous les deux sur la base de Lorient, qui est dans l'ouest de la France, et il y a de la permanence opérationnelle. Je sais pas si tu sais, mais on a 6 avions de chasse en permanence prêts à décoller en quelques minutes en France. Donc là c'est nous. Moi je suis le chef du dispositif, toi t'es mon numéro 2. Et là, normalement c'est un klaxon, mais là on va dire le téléphone sonne, je décroche, je fais oui, 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 très bien, je raccroche, tu sais pas ce qui s'est dit, et là je te regarde et je te dis on décolle. Je pars en courant vers mon avion, toi aussi.
Moi je sais rien.
Pourquoi tu me suis?
Parce que je te fais confiance.
Ouais. C'est quoi ton objectif à ce moment-là?
Remplir ta mission.
Exactement. Et c'est ça le concept du followership. C'est-à-dire, en fait, même pour être très précis, ton objectif, c'est m'aider à accomplir ma mission.
Ouais.
Maintenant, imagine dans le monde du business, si ça existait.
Bah, écoute, c'est hyper intéressant que t'en parles parce que une entreprise, c'est une dictature, mine de rien. Et alors, ça peut être très collaboratif. On est sur des méthodes de travail très collaboratifs, mais la décision, c'est un peu, il y a quelque chose d'un peu dictatorial, quoi.
Il y a des fois quelque chose de dictatorial, mais c'est pas toujours voulu. Moi, là, c'est dans un monde merveilleux. Si au moment où je raccroche, on me dit tu décolles dans un quart d'heure, je vais faire quoi? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je vais pas te regarder et en sirotant un espresso et te... dans 15 minutes, on va partir en courant. Tu vois, c'est pas ça l'idée. Donc, en fait, les contraintes extérieures souvent viennent dicter le style de leadership. Okay, et dans l'entreprise, bah, les chefs, bah, ils ont souvent plein de choses à gérer ou autres, ils ont pas forcément le temps. Et donc, ça, c'est un point important. C'est un point important à comprendre dans le followership, c'est que il faut que les gens, exactement comme tu disais, aient envie de courir derrière. Parce qu'un plus tard, au moment où la charge de travail le permettra, et ça se trouve, c'est qu'au séminaire annuel, tu vois, parce que une start-up en pleine croissance, eh ben, on leur expliquera pourquoi. Mais donc, il y a ce mix constant entre ces différents styles. Donc, on appelle ça autocratique, démocratique, laissez-faire ou Club Med. Et donc, t'as une adaptation nécessaire, de l'équipe. Et ça, c'est vachement important. C'est quelque chose qu'on fait naturellement dans l'armée. Et quand je suis arrivé dans le civil, j'étais un peu perdu. Parce que je l'ai pas retrouvé, je me dis mais vous faites pas ça. et c'est pour ça au final moi j'ai fait le bouquin quasiment là-dessus et le débriefing te permet des fois cette prise de recul et une personne te dit bah là je t'ai suivi mais en gros pourquoi? Eh ben attends je vais te réexpliquer et on va pouvoir échanger, on va pouvoir parler de la mission, de toutes ces choses-là. Pour revenir sur le travail en équipe. Donc cacher de l'information, moi je suis pas forcément pour. Des fois, enfin, il y en a qui appellent ça le mensonge par omission, mais c'est encore autre chose. Mais c'est un vaste débat. Moi, je suis pas trop pour. Et tu remarqueras dans l'aérien, on le fait de moins en moins. Avant, quand tu prenais l'avion de ligne et qu'il y avait un délai, on te disait suite à un problème technique, on est retardé d'un quart d'heure. Et là, tout le monde se regardait.
C'est quoi?
Bon, tout le monde se gratte un peu l'oreille. C'est bon, d'accord. Maintenant, on fait plus ça. Maintenant, t'as dû remarquer la dernière fois que je revenais du Canada, ils disent bon, bah, mesdames et messieurs, notre équipe de mécaniciens au sol, l'équipe de pushback, donc c'est pas les mécaniciens au sol, a vu une couleur bizarre sur la dérive de l'avion. C'était de nuit avec la neige et tout. Du coup, on a demandé une équipe de techniciens qui viennent voir. Ils vont venir voir et après ils vont nous expliquer. Et je vous retiens au courant. On en a pour un quart d'heure. Ouais. Et donc au final, ils ont dit bah en fait c'était un liquide d'une couleur bizarre. On a cru que c'était une fuite hydraulique, mais en fait c'est du reste de produit anti-givrant du vol précédent. Du coup, il n'y a aucun souci, on part. Tu préfères ça comme ou tu préfères, suite à un problème technique, il y a un quart d'heure de...
Ah bah, aider l'humain à comprendre, ça lui fait beaucoup mieux accepter les décisions. C'est ça. Ça, c'est sûr.
Et donc, et ça, c'est assez nouveau, mine de rien, même, tu vois, et on s'est rendu compte que c'est vachement plus efficace, parce que c'est un rapport direct sur l'anxiété des gens.
Ouais, c'est clair.
Directement. Et sur l'efficacité, du coup, et tout. Et nous, on s'est rendu compte que c'est pareil. Si je te prive d'informations, bah, tu veux, ça va te créer de l'anxiété.
Ouais.
Et du coup, ton cerveau, il sera pas vraiment dans le moment présent. Tu vas commencer à te projeter différents scénarios. Tu vas vouloir comprendre. On est quand même, comme on disait, des personnalités type A qui cherchent à maîtriser leur environnement. Et si je t'empêche de maîtriser l'environnement, tu vas être moins efficace.
Okay,
parce que tu vas essayer de, par toi-même, de trouver des solutions. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que tu aies un équipier, je veux qu'il soit vraiment, toi, dans l'instant présent, ultra efficace. Donc, pour ça, je veux m'assurer qu'il est tout le package autour de lui pour être efficace à l'instant présent. Donc, c'est mon job de le rassurer avec tout ce qui est autour.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Bah, écoute, c'est vraiment passionnant. Enfin, je suis persuadé que les auditeurs vont vraiment prendre des notes et parce qu'il y avait plein d'outils là que tu nous donnes. Depuis que t'as quitté un petit peu ce monde-là, tu fais beaucoup de conférences, tu fais du coaching aussi, si j'ai bien compris. On va dire, renouvelé ta vie un peu vers du consulting et vers de la conférence. Je pense que là, t'as démontré en une heure que c'était pas une coquille vide et qu'il y avait vraiment des choses très poussées. Il y a un dernier sujet, on en a parlé hyper rapidement sur la tunnélisation. Ouais. Je pense que ça peut intéresser les auditeurs, notamment c'est un sujet que tu abordes un petit peu. La tunnélisation, si je peux le vulgariser et le réduire à ça, c'est le fait de complètement omettre parfois l'objectif principal quand on se focalise sur un détail. Et du coup, de rentrer dans une spirale un peu peut-être négative parce qu'on oublie et qu'on se met dans un tunnel et qu'on voit pas l'horizon du soleil et l'endroit qu'on doit viser. Comment est-ce que toi, tu aujourd'hui, les gens que t'accompagnes, les gens que t'essayes de coacher, comment est-ce que tu utilises cet outil-là et comment est-ce que t'essayes de leur en faire prendre conscience?
Alors, la tunnelisation, ça tue. Hein, c'est un des... principale cause d'accident, c'est souvent la tunnelisation, que ce soit dans l'aérien ou même autre. Et c'est vraiment ce brouillard intellectuel qui fait que tu deviens saturé par une tâche toute simple et t'en perds toute vision des choses alentours. C'est pour ça qu'on parle de tunnel. Tout autour de toi, ça devient sombre. Et même si une tierce personne te parle, tu vas pas forcément l'entendre. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut arriver très vite. Maintenant, comment on en sort? Eh ben, en se donnant des étapes.
Ouais.
Moi, je suis un grand défendeur d'une méthode assez répandue qui est marche par marche, step by step. C'est la base de tout. Nous, c'est la base du vol en formation. C'est la base même dans le sport. Tu parcours 42 km, tu dis pas à ton cerveau, je suis parti pour 42 km, quoi. Tu vas commencer à découper et tu vas y aller étape par étape, step by step, si possible, de plus en plus grande. Et nous, là où ce que j'ai réalisé justement en arrêtant un peu le vol de manière forcée, je te reparlerai juste après pourquoi, c'est qu'en fait, dès que tu passes d'une marche à l'autre, il faut prendre un petit temps d'auto-analyse où tu te demandes comment tu as performé sur la marche précédente, une sorte d'auto-débrief. Si tu peux le faire en équipe, c'est mieux, mais sinon même au quotidien, une sorte d'auto-débrief sur ta marche précédente. Et après, tu regardes devant toi et tu te dis, c'est quoi mes objectifs à court, moyen et long terme, et tu t'assures que tu es toujours aligné à ceci. Pourquoi? Parce que dans un monde qui va extrêmement vite, moi, un de mes grands sujets, c'est l'exponentialité, mais là, c'est pas trop le thème, mais comment tu fais pour suivre justement une croissance exponentielle, comment tu fais pour toujours bien t'adapter? Bah, t'es obligé de constamment prendre un peu de recul et te demander comment ça va. Or, on est de plus en plus sollicité, messages, mails, machin, coup de fil, des trucs à faire. Et si tu ne te forces pas en avance à identifier quelles seront tes marches, tu vas tout simplement passer d'une à l'autre sans jamais prendre le recul nécessaire, et c'est là où tu peux tunneliser. C'est ça. Un pilote de ligne, quand il doit se poser sur une piste, il a deux fenêtres fictives dans le ciel qu'il doit passer, qui sont en fait les dernières marches avant l'atterrissage. Donc t'as plein de marches en amont, préparation, briefing, calcul de descente. Et quand il arrive à 300 mètres du sol, il y a cette fenêtre fictive dans le ciel, et il doit être dedans. Il doit être à bonne altitude, plus ou moins quelques mètres, et très important, bonne configuration, les checklists à un certain stade, et à une certaine vitesse. Par exemple, à 300 mètres, il faut généralement être à moins 7 km/h, plus 20 km/h de ta vitesse idéale. Si ça y est pas, tu remets les gaz, t'as pas le droit d'approcher. Okay. C'est parce que c'est trop dangereux, parce que ta déviation à la norme est trop importante. Première étape. Deuxième étape, elle est à 150 mètres du sol, donc très peu de temps après. Et là, tu revérifies, les critères sont plus restrictifs. Pourquoi est-ce qu'on a mis deux fenêtres, à ton avis?
Parce que une, c'était pas assez.
Parce qu'une, c'est pas robuste.
Trop d'erreurs. Ouais.
Parce que si tu es saturé en charge de travail, tu vas passer au moment où t'es censé lire par 1000 pieds sol, et ben t'es pris par autre chose, tu vas pas le voir et t'as rien pour rattraper derrière. Okay, on s'est rendu compte que le fait d'en avoir deux, voire même trois, c'est beaucoup plus efficace. Donc quand tu te dis je vais découper ma journée en deux ou trois étapes, non. En fait, fais x2 et découple-la beaucoup plus. Pourquoi? Parce que si t'es pris par un truc qu'un autre, typiquement, t'as un client qui t'appelle juste avant, derrière tu fonces dans la réunion, machin, bah tu vas louper. Il faut savoir qu'on est humain et que par construction, on va se faire avoir.
Ouais.
On va faire des erreurs, ça c'est un autre thème, mais on va faire des erreurs, et du coup, comment tu mitigues ça? Et ben, en augmentant le nombre de marches, parce que tu sais que même si tu en sautes une ou deux, bah, à un moment quand même tu vas dire ah zut, tu vas réussir à prendre ce recul et tu vas dire attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc c'est vraiment se visualiser ces différentes marches. Donc tu vas me dire ah ouais, mais c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Et ben, t'es commercial, tu fais un rendez-vous avec un client, en fonction de ce que tu vends, tu peux peut-être découper ton rendez-vous client d'une demi-heure en différentes marches. Puis la partie icebreaker, au Canada on adore parler de la météo. Après, derrière, tu vas avoir la partie peut-être où t'es censé lui demander un peu ce qu'il fait, hein, s'intéresser au gars. Après, t'as ta partie un peu pitch, et là t'arrives à la partie pitch, et à chaque fois c'est tes petites marches. Icebreaker, ok, tu sais, ça se fait inconsciemment dans le cerveau, ok, check, est-ce que j'étais bon, pas bon, tiens, lui il m'a dit ça c'est intéressant, je note dans un coin du cerveau. Partie pitch, ok, et là au moment où t'attaques la partie pitch derrière, t'as un petit rappel, mes objectifs à court, moyen, long terme. Court terme, dans la vente, ça a dû te parler 80% du temps.
Ouais.
Combien de commerciaux se font avoir, hein. Donc tu vois, tu te le rappelles même, tu sais, dans le coin du cerveau, t'avais préparé ta petite case, et ça, tu peux vraiment le ramener. Nous, on fait ça en temps réel, en conférence, des fois, je monte des vidéos de ravitaillement en vol. T'arrives, t'essayes, ça marche pas, tu recules, tu réessayes, tu t'auto-analyses. Mais tu vois, c'est développer cet automatisme, et les gens me disent, ouais, mais ça prend de la discipline, ou c'est un truc de militaire. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est, je leur dis, mais t'as ton permis voiture? T'as ton permis voiture, hein.
Ouais, mais ouais.
Tu t'arrêtes au stop ou au feu rouge?
Bien sûr.
Voilà. Est-ce que ça te prend de l'énergie mentale?
Non.
Voilà. C'est par contre, voilà, la première fois que t'as appris à conduire, ça t'as commencé à décélérer 70 mètres avant et.
Mais tu veux que je te dise, moi, le jour de mon permis, j'ai essayé de démarrer la voiture sans passer la première vitesse. Donc, tu vois, en termes de checklist, j'étais complètement à côté et j'ai fait cramer le moteur et j'ai quand même eu mon permis ce jour-là. Mais tu vois, pour montrer à quel point le stress, ça te fait oublier des checklists qui sont hyper simples. La checklist de j'ouvre la porte, je mets ma ceinture, je mets.
Et le manque d'expérience. Cette expérience, on va parler dans la visualisation, tu aurais pu te la créer mentalement. Exactement. En amont, en fait. C'est ça, cette notion. Et l'expérience, ce qu'on dit à nos jeunes, mais les jeunes, en fait, tu te rends compte de l'expérience qu'une fois que tu en as.
Ouais.
De l'importance de l'expérience qu'une fois que tu en as.
Bah, tu vois, moi, clairement, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel pour moi. Et séquencer son travail, le visualiser, c'était quelque chose que. Je veux pas dire que je me suis fait violence parce que je l'ai fait avec plaisir parce que justement j'adorais progresser là-dessus et j'en ai fait une énorme force quoi et aujourd'hui vois à quel point c'est des outils hyper puissants tu vois je peux te montrer mon outil d'organisation pour le podcast c'est une checklist c'est une checklist pour chaque épisode j'ai une checklist de 20 points et je dois les cocher quoi et du coup bah c'est devenu complètement automatique quoi.
Et un point qui est intéressant c'est que ta check c'est toujours la même.
C'est toujours la même.
Et le fait de toujours faire la chose pareil, le jour où tu loupes quelque chose pour une raison X ou Y, bah, ça va te chatouiller la colonne vertébrale et tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Nous, c'est pour ça, on fait toujours la même chose. Ouais. C'est comme ça que t'es plus robuste. C'est exactement ce qu'on fait dans l'aviation. Okay. Il n'y a pas de secret.
Super cool.
Tu peux faire pilote, c'est bon.
Ben, écoute, franchement, là, en tout cas, le permis, apprendre à voler, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, avec mon père, on a un baptême de vol là au mois de juin.
Où ça?
Normalement, si mes souvenirs sont bons, on doit le faire à côté du Havre.
À côté du Havre, c'est joli là-bas. Faut demander d'aller voir les plages de débarquement et tout.
Ouais, exactement.
À Deauville, mais du coup, c'est le terrain du Havre.
C'est du côté des falaises de
d'Étretat,
exactement.
Okay. Ah bah c'est
entre Étretat et
Abbeville.
Ouais, exactement.
Ouais, mais j'ai passé un examen là-bas.
Donc, okay. On se fait ça cet été. Je pense que c'est un grand rêve. Mon papa est à la retraite. Je lui ai dit, bah, ok, on se fait ce kiff là. Ah, et du coup, il m'embarque enfin dans sa passion.
Parce que lui, c'est génial.
Pour la petite histoire, mon père était durant son service militaire. Il était, alors j'ai oublié le nom, mais il était le chauffeur du pilote qui a fait le premier essai nucléaire sur Mirage 3 ou 4.
Mirage 4, sûrement. Ouais.
Mirage 4. Et donc, il a tiré sur un ballon dirigeable en plein milieu de l'océan Indien, au Pacifique. Et après, il s'est enfui très, très, très vite. Donc, j'ai oublié le nom de ce monsieur. Mais voilà, mon père était le petit assistant et le chauffeur de ce grand monsieur-là. Et du coup, je pense qu'il a eu une petite passion et d'où les... D'où le fait que j'étais attaché devant ma télé pour regarder Top Gun.
C'est ça.
Voilà. Et mon père qui doit faire à peu près la même taille que Tom Cruise, donc je pense que de toute façon il aurait pas pu être pilote. Mais voilà. Bon, sur cette petite aparté, j'aime bien terminer un peu les interviews sur des questions un petit peu de personnalité. Tu vas voir, tu peux y répondre très facilement ou de manière un peu plus poussée. C'est comme tu le veux. Mais tu vas voir, c'est des questions un peu rigolotes. J'appelle ça les questions Canal+. La première, c'est quoi une bonne journée pour toi?
C'est une journée que je finis en vie. J'étais à l'hôpital il y a encore quelques jours, c'est pour ça. Mais tiens, juste à me faire bondir, je te disais tout à l'heure pourquoi la conférence. J'ai fait un AVC il y a 2 ans.
Okay.
Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre un peu de recul par rapport à l'aviation et je me suis rendu compte j'étais en train de donner le biberon à mes enfants et je me suis rendu compte que je m'étais fait un coup du lapin en meeting aérien quelques années avant. Je me suis obstrué une artère, artère qui a été pincée. Derrière, ça a fait de la fatigue qui a fait un AVC et c'est comme ça que pendant un an, je me suis retrouvé interdit de vol. Et j'ai commencé à faire des simulateurs de vol et des conférences et tout. Okay, donc, et puis maintenant, je suis plus heureux des hommes. Donc, tu vois.
Tu crois que la vie est plus
heureuse. Ouais, c'est ça. Mais du coup, une journée qui se finit bien, c'est ça.
C'est vrai ce mythe que l'espérance de vie est un peu raccourcie, quoi.
C'est vrai que chez les pilotes de ligne et tout, il y a plein de raisons.
Ouais.
Une des raisons principales, c'est que d'habitude, toutes les 20 minutes, l'hôtesse apporte à manger au pilote. Et à la retraite, il n'y a pas d'hôtesse pour apporter à manger toutes les 20 minutes. Donc, ça, c'est une petite blague dans le milieu. Mais...
Ok.
Non, t'as plein de choses. Ouais. Ça ne fait pas que du bien à l'organisme.
Ouais. Ah, ouais, j'imagine. Quel est le meilleur souvenir de ta carrière?
Meeting aérien à Lens. Non, meeting aérien à Yeovilton. Meeting aérien à Yeovilton en 2017. Alors, si tu tapes sur YouTube Yeovilton, de Rafale 2017, c'est écrit Y-E-O-V-I-L-T-O-N, t'as deux avions. Moi, j'étais dans l'avion blanc, j'étais le leader. Donc, petite équipe, on est parti là-bas, en Angleterre, alors que ma femme, à ce moment-là, et les enfants habitaient en Angleterre. Et démonstration de 12 minutes, et on a gagné le trophée de la meilleure démonstration ce jour-là. C'était vraiment super sympa. Et j'ai fait une belle erreur. J'ai pas réussi à me poser sur la piste initialement, ce qui a beaucoup fait rire, et ça nous a pas empêché de gagner la meilleure démo. Mais non, c'est vraiment un super souvenir, un super vol. Et c'est marrant, encore sur Facebook, il y a deux jours, il y a des gens qui en parlaient, donc c'est, tu vois, ça a marqué. on avait été élu deuxième plus belle démo de l'année 2017 en Angleterre. Donc tu vois, on a vraiment fait, j'avais mis de l'énergie dedans à la préparation, bizarrement.
Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé ta vie?
Oh, il y en a plusieurs. Hein. Ah, ça c'est dur. Une rencontre en particulier.
Oh, il peut y en avoir plusieurs.
L'idée, bah, après, forcément, la rencontre avec ta femme, c'est forcément une rencontre qui change ta vie. Moi, j'ai trois enfants, donc je vais prendre la réponse facile. Je vais dire oui. Pendant que j'étais élève militaire, je rencontrais ma femme à Aix, et puis forcément, ça change la vie.
Non, mais tu sais quoi, tu dis que c'est une réponse tarte à la crème, mais je peux te dire que sur ce podcast, déjà, il y en a peu qui font une référence à leur conjoint.
Et ça doit gueuler après.
Ouais, exactement. Et la deuxième chose, c'est que, tu vois, moi, j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Lean In. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ça a été écrit par Sheryl Sandberg. Si tu veux, c'est une femme qui a été numéro 2 de Facebook pendant plusieurs années, qui est une grande carriériste. Et elle a écrit son bouquin il y a 7-8 ans, et son mari est décédé il y a 3-4 ans, et c'est pour ça que j'ai acheté son bouquin. Et en fait, elle dit un truc, c'est que dans sa carrière, le choix le plus important de sa vie, finalement, c'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps, et la personne avec qui, quand tu rentres le soir, qui te comprend, qui te soutient, et qui te prend pas trop la tête, tu vois.
Ouais.
Et franchement, ça a tellement résonné en moi, parce que je vois tellement de
Agreed.
Gens... je vois tellement de gens hyper talentueux, tu vois, autour de moi, et ils ont des relations émotionnelles nulles, tu vois, qui les rabaissent, qui les tirent vers le bas.
Ah,
je me dis, mais... En fait, ouais, tu vois, c'est certes, tu passes 8 heures au boulot, tu passes 8 heures avec potentiellement ton conjoint et ensuite 8 heures à dormir. Si tu fais grosso modo la vie d'un civil, à peu près à quoi ça ressemble. Bon, bah, si tu as 8 heures, si au boulot ça va pas, comment est-ce que tu veux récupérer si les 8 heures...
On parlait des points tout à l'heure, mais si t'arrives avec 20 points de motivation le soir et que ton conjoint te fait perdre 30...
Exactement.
Au lieu de t'en faire récupérer 30, ça a un impact assez rapidement, même sur la santé, accessoirement. Ouais.
C'est quoi la meilleure ambiance que t'aies vécue?
Porte-avions Charles de Gaulle en fin 2015, de la période de Noël. Quand on était en guerre en Irak, j'étais officier tradition et j'ai senti venir le coup qu'on allait passer un bout de temps en mer. Je suis allé claquer 1 200 € chez Jiffy et dans les trucs, et j'ai amené en douce sur le porte-avions pour 1 200 € de pop-corn, bonbons, déco et jouets. pas de champagne, il y en a déjà à bord. Mais histoire de faire des surprises au fur et à mesure, donc on a des calendriers de l'avant et tout.
Ouais.
Et super mon souvenir, j'ai des matelotes qui m'ont offert après des bouquins de remerciements avec les albums photos, enfin vraiment, c'était vraiment super sympa. Ouais. Et réussir à mettre cette ambiance là à ce moment là tout le monde, quasiment tous les mecs après sont venus voir en disant que c'était le meilleur Noël qu'ils avaient fait à bord. Et c'était vraiment une ambiance géniale. Moi, j'étais assez ancien, j'étais instructeur pour pouvoir un peu imposer mon style. Et on était dans un petit groupe, on était en détachement, le chef était sympa. Puis après, il y a beaucoup d'intelligence relationnelle. Hein. Par exemple, si tu veux que dans ta salle de combat, tout le monde ait droit d'avoir son calendrier de l'avant au mur, tu fais quoi? Tu vas offrir des calendriers de l'avant au chef. Mmh. Donc tu commences par offrir les calendriers de l'avant au chef. Les mecs, ils sont tellement étonnés qu'ils acceptent, ils sont contents. Et du coup, ça veut dire, les gars, on peut foutre les nôtres au mur, tu vois. Tu commences par là. Après, j'avais acheté des patchs rigolos. Tu sais, on met des patchs sur les combinaisons. Donc moi, j'ai toujours été très patch un peu rigolo. Tu sais, dans l'airsoft, tu trouves des patchs marrants. Ouais. Donc j'avais offert à un moment le patch à un repas. On faisait un repas d'unité. Et j'ai dit, commandant, j'ai un cadeau pour vous et tout. Bon, et tout. Et je lui offre le patch Sexiest Man Alive. Homme en vie le plus sexy. Rien de truc, il est con, quoi. Et il l'a porté. Et du coup, après, c'était, bon, bah, puisque le chef porte un patch débile, on a tout le droit de sortir des patchs débiles. Donc, moi, j'avais like a boss, enfin, on avait que, et du coup, c'était vachement sympa, on était la seule unité qui avait ça. Et ça crée un sentiment d'appartenance assez, assez fort. Et ça, c'était vraiment une ambiance assez extraordinaire, qui a duré 2 mois et qui était vraiment top. C'est vraiment, tu arrives à être efficace, à faire ton boulot, à représenter la République française dans une ambiance, on va dire, nord-américaine, de fac presque, quoi. Ouais. Mais avec un switch, on n'a pas trop parlé de compartimentalisation, mais playhard, workhard, tu vois, donc c'est workhard 98% du temps, mais les 2% qui restent, c'est sympa. Et ça, c'était bien. Mon commandement était vraiment, vraiment, vraiment cool là-dessus. Et au final, on était un peu décrié au début. Et après, même pour la déco que j'avais mis en place dans la salle. Et après, ils venaient faire les interviews de presse dans notre salle. Tellement on avait fait une déco cool et tout.
Tu te vois dans 10 ans?
Ah, ça, c'est la grande question. Pas facile. Dans 10 ans, je me vois plutôt en Amérique du Nord à cause de mon travail chez Air Canada. Je dois reprendre les vols en 2021 avec en gros 70% du temps en Amérique du Nord, 30% du temps en Europe, entre Paris et la Provence. Et donc pilote, commandant de bord, court courrier à ce moment-là, je pense. Avec ma petite boîte qui tourne bien, on fait quelques conférences par mois, quelques clients de coaching et puis... un truc sympa, quoi. Cool. Bah, écoute, le meilleur des deux mondes.
C'est tout ce que je te souhaite. Est-ce qu'il y avait, t'avais un idole? Ou une idole? Pardon. Quand t'étais plus jeune.
Bah, moi, j'avais beaucoup idéalisé mon père. Je pensais, pas faire du Freud, mais un truc assez classique. Il était pilote de chasse, tout ça et tout. Donc,
C'était inspiré.
Ça m'a pas mal inspiré. Et après, derrière, grand fan de BD. Ça peut paraître bête, mais tu parlais de Top Gun. Moi, je pense qu'il y a eu encore plus un impact, c'est Buck Danny. Les BD Buck Danny qui sont encore produites, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et t'es voilà, tous un peu fans de Buck Danny. Tumblr, pour les connaisseurs. Pas Buck Danny en soi, trop carriériste à mon goût. Tucson, trop bouffon. Mais juste milieu, celui que je préfère, c'est Tumblr, pour ceux qui connaissent les BD Buck Danny. Okay. Et ouais, ça, mine de rien, une BD, ça peut avoir un impact. Il y en a tellement. Tu passes beaucoup de temps avec. Et c'est cœur domaine, hein, c'est des pilotes de l'aéronavale, donc.
Donc c'est. Ok, génial. Et dernière petite question, c'est quoi le, si tu pouvais te donner un conseil à juste avant que tu fasses ton premier décollage sur porte-avions. Tu pouvais être une petite niche.
Est-ce que t'as entendu mon premier décollage sur porte-avions? J'ai mis sur LinkedIn il y a un mois à peu près. Donc, j'ai posté la vidéo justement. Enfin, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que je me suis revu il y a pas longtemps. Okay. Bah, du coup, j'en ai bien profité. Si t'entends, je crie bien et je dis quelques insultes pendant le catapultage. Tellement je suis content. J'ai bien vécu mon premier catapultage. Comment ?
Ça avait l'air.
J'ai bien vécu. Donc, moi, je me dirais de profiter. Peut-être profiter encore plus. J'ai toujours eu cette tendance à. Alors ça, c'est très intéressant. Tu vois, j'ai toujours eu cette dans l'armée. Pendant ma formation de pilote, que ce soit de chasse ou professionnel, j'ai toujours pas. J'ai rarement profité du chemin parce que l'objectif était écrasant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif est tellement important et t'as pas vraiment d'autre choix que ça te fait presque perdre le plaisir du chemin. Mmh. Et ce qui a changé ma vie là, avec l'entrepreneuriat, ma petite boîte et mes autres trucs, c'est qu'en fait, j'adore le chemin. Le chemin s'autosuffit d'une certaine manière.
Pas forcément précis.
Exactement. Limité, quoi. C'est ça. Parce qu'au final, c'est quoi un objectif? C'est quoi? C'est un chiffre d'affaires, un impact, un machin, un impact. Comment tu veux? Voilà, je fais un maximum de trucs pour essayer d'en avoir le plus possible, mais tu pourras jamais vraiment avoir des stats sur l'impact que t'as sur les gens. Je sais pas combien de personnes vont faire les méthodes binaire, et tout. Ouais. C'est ça. Donc, là, l'objectif pilote de chasse, ok. Après, bah, chef de patrouille, machin, et c'est presque écrasant. Alors que là, c'est un milieu différent, mais je pense qu'à partir du moment où tu réalises dans le monde civil que tu arrives à créer de la valeur, tu peux vraiment profiter de l'instant présent. Okay. Et dans l'armée, c'était en tant que pilote de chasse, c'était moins le cas parce que tu peux difficilement créer de la valeur et être respecté pour ça dans l'aéronaval tant que t'as pas la plus haute qualification.
Okay.
Tu vois, t'es encore en formation, c'est une formation très longue.
Génial. C'est la dernière question, la tradition pour ce podcast, c'est de passer le micro au prochain invité. Tu me recommandes d'aller interviewer qui? Donc, ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas. pour parler un petit peu performance, psychologie, de sport.
Eh ben moi, je te conseillerais mon préparateur physique et mental quand j'étais au combat, Patrice Leguet.
Ok.
Patrice Leguet, qui tu pourrais le trouver, je pourrais, tu devais te coordonner si tu veux. C'est un mec qui a une carrière, j'ai envie de dire de l'ombre. Mais c'est un peu comme derrière chaque grand homme se cache une grande femme, tu vois. On parlait du couple tout à l'heure, mais c'est très vrai. Coach, ouais. Et c'est les personnes de l'ombre que tu, parce que, et si je te dis, est-ce que tu savais que les pilotes de chasse, ils ont des préparateurs mentaux et physiques?
Pas spécialement.
Bah, lui, c'est son boulot.
Il a cassé des mythes jusqu'au bout.
Ouais, il fait ça depuis quelques temps. Mais lui, il a commencé en groupe d'intervention de gendarmerie. Après, derrière, il est rentré fusilier marin, donc protection des trucs, stage commando. Là, il s'est dit, je serais plus utile dans la préparation sportive et tout. Bataillon de Joinville, comme coach. Et après, il s'est dit, c'est pas assez opérationnel. Je suis quand même militaire en kaki. 6 ans dans le groupe aéronaval, à venir sur le porte-avions avec nous. Moi, c'était mon psy, hein, clairement.
Okay.
Hein. La genèse de création de la boîte, depuis le début, il la connaît. Enfin, la prise de recul au quotidien en tant que pilote de combat, c'est dans la salle de sport. Ouais. Et donc, lui, c'est la personne qui t'accompagne et qui, comme un coach, te fait de la question ouverte. Il a pas les solutions. Il a fait quelques vols en avion de chasse, mais tu vois, ce sera jamais pareil qu'un instructeur ou qu'un autre, mais c'est une personne qui va t'amener par la réflexion à trouver tes propres solutions. Et je pense que c'est une personne très intéressante parce que c'est les personnes indispensables de l'ombre. C'est ce qui fait tenir la colonne vertébrale du groupe aérien embarqué.
Ok.
Donc, Patrice Leguet.
Bah, écoute, merci beaucoup. Merci infiniment pour cet échange. C'était waouh. Je pense que les auditeurs qui sont encore là sont scotchés. Ils ont fait une pause dans leur footing et vont peut-être en redemander. En tout cas, merci infiniment pour ton temps. Merci infiniment pour tout ton savoir. Là, je pense que là, c'était brillant de pour la qualité de l'information et pour la qualité de ton savoir. Donc félicitations. Et je te souhaite plein de bonnes choses.
Merci à toi aussi. Merci.
Salut, à bientôt.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.